Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Si on en croit le National Weather Service, le service météo des États-Unis, dans une vie moyenne qui durerait 80 ans, un être humain court statistiquement un risque sur 10 000 d'être frappé par la foudre. C'est un peu plus que la probabilité de gagner au loto, mais ça reste quand même très peu. Être foudroyé deux fois est donc d'une rareté extrême, et se faire foudroyer trois fois ou plus tient quasiment du miracle. Roy Sullivan, qui est garde forestier dans le parc national de Shenandoah, dans l'état de Virginie, a pourtant été foudroyé sept fois. La première, c'est en avril 1942. Il s'abrite de l'orage dans une tour d'observation de feu nouvellement construite, mais qui n'est pas encore protégée contre la foudre. Bientôt, la tour s'enflamme et c'est en courant pour s'échapper qu'il est frappé. La foudre fait un trou dans sa chaussure, mais il s'en tire indemne. Il est ensuite tranquille pendant plus de 20 ans, mais en 1969, il est à nouveau foudroyé et le sera presque chaque année jusqu'en 1977. Une fois, alors qu'il est dans son camion censé le protéger des éclairs, la foudre rebondit sur les parois, foudroie un arbre et l'atteint par la fenêtre. Une autre fois, un éclair s'abat sur lui alors qu'il est en train de pêcher. Il y perdra plusieurs fois ses cheveux et ses sourcils, un orteil, il a des brûlures à l'épaule, à la poitrine, à l'abdomen, mais il survit toujours. Les 7 cas ont été confirmés par la direction du parc national et Roy Sullivan est reconnu par le livre des records comme la personne ayant été le plus frappée par la foudre au monde. L'ultime ironie ou chapitre romanesque de son histoire, c'est que Roy finit tué par un coup de foudre, mais au sens figuré, puisqu'il est retrouvé mort d'une balle dans la tête en 1983. Il se serait suicidé à cause d'un chagrin d'amour. Tout de suite dans les pieds sur terre, deux autres histoires tout au bord de la mort. Ils ont frôlé la mort par Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Hello, Chris.
Hi, how are you?
Yes, I'm fine, thank you.
La première fois que Chris voyage en Suisse, c'est en octobre 2018, et c'est aussi la première fois qu'il vole en deltaplane. Chris vit en Floride, il est photographe et il aime faire des choses non conventionnelles quand il voyage. Il a déjà essayé la tyrolienne, mais jamais le deltaplane. Ce jour-là, lui et sa femme sont accompagnés chacun d'un pilote instructeur avec lequel il s'échauffe, dans la bonne humeur, tout en haut d'une petite montagne et sous un ciel magnifique. La femme de Chris s'élance la première dans le ciel bleu et dans le vent. Chris la regarde s'éloigner et s'apprête à la suivre.
Me and my pilot did a couple of side-by-side runs to make sure we got the run in sync.
On a fait quelques échauffements au sol pour se préparer à décoller. On a attendu le bon moment pour le vent.
Le deltaplane, ça se compose d'une voile reliée à une structure triangulaire. Le pilote, chargé de la sécurité, attache son élève à un harnais fixé en haut du deltaplane, puis s'attache lui aussi.
When my feet left the ground, I figured out pretty quickly that something was seriously wrong.
Quand mes pieds ont quitté le sol, j'ai compris rapidement que je n'étais pas attaché.
I was supposed to level out.
J'étais supposé être au-dessus du pilote et en fait, j'étais en dessous de lui, suspendu dans le vide.
And that was with my left hand.
Ma main gauche était accrochée à la barre du deltaplane et ma main droite essayait d'attraper une prise. Le pilote a mis un peu de temps à comprendre qu'il ne m'avait pas attaché et il a crié « Tiens bon ». Il a essayé d'attraper mon harnais en volant d'une seule main. Je glissais et alors il m'a tendu sa jambe, j'ai pris son pantalon mais ça ne m'aidait pas beaucoup. Je me suspendais presque entièrement avec ma main gauche. J'ai regardé en bas, c'était magnifique.
The trees were all changing colors a little bit.
J'ai vu les arbres, les couleurs d'automne, les toits des maisons.
I thought to myself, I'm gonna fall to my death here, you know.
J'ai visualisé ma chute et alors je me suis dit, je vais mourir là.
Le deltaplane est déjà haut dans le ciel et il est trop tard pour se laisser tomber sans risquer de mourir. Chris se retrouve donc suspendu dans les airs, ne tenant qu'à la seule force de ses mains. Au moment où il visualise sa chute, il se dit pourtant qu'il ne tombera pas. Il tente de rester calme, tout en s'accrochant aussi fort qu'il peut au deltaplane d'une main et à son pilote de l'autre. Le conducteur essaie d'amorcer un atterrissage, mais il faudrait pour cela une surface plane, et il ne survole pour l'instant que des collines. En plus, le vent les repousse vers les hauteurs, le deltaplane est déstabilisé. Les secondes passent. Chris sait que s'il panique, ou s'il crie, il risque de tomber. Il se concentre uniquement sur ses mains, il ne pense pas à prier, il ne voit pas défiler sa vie, il ne pense qu'à rester accroché. Et quand le pilote parvient enfin à baisser en altitude, ça fait déjà presque 2 minutes qu'il est suspendu dans le vide.
Quand j'ai vu le sol approcher, j'étais vraiment soulagé parce que je n'aurais sûrement pas tenu 3 ou 4 secondes de plus. Mes doigts glissaient, j'ai tenu accroché 2 minutes 40, mais ça m'a paru 5 minutes. J'ai cogné le sol avec mes pieds, je me suis brisé le poignet à l'atterrissage. Le pilote est venu vers moi en courant, il respirait fort. Il m'a dit de ne pas bouger, mais je sentais que ça allait, alors je me suis relevé. Il m'a dit qu'il fallait qu'on parte à l'hôpital. Je lui ai dit qu'il était hors de question que j'aille où que ce soit sans ma femme.
Le pilote décide alors d'emmener Chris jusqu'à la piste d'atterrissage officielle pour y retrouver sa femme qui a dû finir son vol. Ils partent à travers champs, traversent 2 clôtures électriques, arrêtent une voiture sur la route qui les emmène au lieu-dit. La femme de Chris est là, profitant de la vue et regardant les autres personnes atterrir en deltaplane. Lorsqu'il la retrouve, Chris lui dit seulement que son poignet est cassé et qu'il faut aller aux urgences. Le pilote du deltaplane les accompagne jusque dans la salle d'attente.
And he had to leave the room for a little bit and my wife, you know, started asking me questions then.
Le pilote a quitté la salle d'attente un moment et ma femme a commencé à me poser des questions.
What happened? You did just hit your hand on the ground when you
landed? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu t'es cogné la main quand tu as atterri?
She had no idea what happened and
elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé et je lui ai dit:
This is the closest to death I've ever been into my entire life.
C'est la première fois que je passe si près de la mort.
She says, "What do you mean?" And I told her, I said, "I was never hooked up to the hang glider."
Elle m'a répondu, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit, je n'ai jamais été attaché au deltaplane.
La femme de Chris reste bouche bée. Et quand le pilote revient dans la salle d'attente, elle lui demande comment ça a bien pu arriver. Il répond que c'est une erreur humaine, qu'il a dû être perturbé au moment d'attacher Chris, qu'il ne comprend pas. Tous les trois parlent longuement à l'hôpital. Ils refont la scène. Ils ne se l'expliquent pas. Puis vient l'heure de l'opération du poignet. Chris sort de l'hôpital le lendemain et revient 4 ou 5 jours après en Floride.
Tout le monde m'a demandé après si je n'étais pas fou de colère contre le pilote. Ça n'aurait pas arrangé les choses d'être en colère ou de l'accuser. Il savait qu'il avait fait une terrible erreur, qu'il allait devoir vivre avec pour le restant de ses jours. Il était en larmes quand je l'ai quitté à l'hôpital. Il m'a aidé à récupérer mes médicaments. Il a conduit ma femme de l'hôtel à l'hôpital plusieurs fois. Et quand je suis revenu chez moi aux États-Unis, j'ai reçu un mail de sa part me disant qu'il était désolé encore une fois. Je ne lui ai jamais répondu parce que je n'avais rien à dire.
Depuis l'accident, Chris a subi 3 opérations. 2 au poignet et 1 au biceps gauche qui s'était déchiré lors du vol. Il a cherché si d'autres personnes avaient eu comme lui un accident de deltaplane parce qu'elles n'étaient pas attachées. Il n'a trouvé qu'une jeune femme qui n'a pas survécu. Chris sait que si sa femme et lui avaient échangé par hasard de pilote au moment du vol et que si c'était elle qui avait été à sa place dans le deltaplane sans être attachée, elle n'aurait pas survécu non plus. Ça fait 25 ans que Chris et sa femme sont ensemble. Ils ont eu un fils, et Chris dit que c'est grâce à eux qu'il est resté accroché au deltaplane. Il ne fait pas de cauchemars, il n'a pas de pensée obsessionnelle, il essaie d'avancer en pensant au futur. Il aimerait à nouveau voyager en Suisse, parce qu'il n'a pas eu le temps de vraiment la visiter.
You know, you gotta live your life. Live your life.
Tu dois juste vivre ta vie, vivre ta vie. Je ne vais pas changer parce que c'est arrivé. Je ne vais pas penser différemment à la mort. Je recommencerai à faire du deltaplane quand je serai remis. Ma femme m'a dit que c'était phénoménal. Elle volait comme un oiseau, tout était totalement silencieux. Ça avait l'air tellement beau.
Well, I might have some jitters when I do go, but you know, I'll do it again.
Je vais sûrement avoir peur, mais je recommencerai à faire du deltaplane.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Patrick, j'adore la pêche, et un jour je suis allé pêcher et j'ai eu un accident. La veille de ce jour-là, on rappelle très bien ce qui s'est passé, j'étais avec ma nièce, je l'avais menée faire du cheval, j'avais fait des courses, une journée classique, sauf le soir, avant qu'elle se couche, elle voulait absolument que je l'amène le lendemain encore faire du cheval ou promener, ou que je reste surtout avec elle. Elle disait « Tonton, reste avec moi, je veux pas que tu partes, j'ai pas envie », et elle pleurait, elle criait. Et c'est la première fois qu'elle a autant insisté pour que je reste avec elle. Parce qu'elle voulait pas que j'aille à la pêche. J'adore la pêche. Je pêchais le loup sur l'île du Frioul, qui est à 5 km de Marseille. C'était en plein hiver, c'était au mois de janvier, donc il faisait très froid. Il y avait un vent à 100-120 km/h. Et en plus, en hauteur sur la calanque, on a le vent de tous les côtés. Donc c'était très difficile déjà de marcher pour accéder au poste de pêche qu'il faut à peu près 2 heures pour y aller. On est arrivé à l'endroit pour pêcher, ça devait être 8 heures du matin. À l'endroit où on pêche, il y a juste un plat de 1 mètre, 1 mètre 50 de large et c'est très très pointu et très glissant. Donc c'est très dangereux. Donc j'ai lancé la canne pour pêcher. Et au moment de faire le mouvement, je me suis senti très faible et je me suis senti partir, donc comme un malaise, je sais pas comment l'expliquer. Et comme le vent était très fort, ben, il m'a poussé, car on avait le vent dans le dos. Et mon collègue qui était à côté de moi, il essayait de m'attraper, mais malheureusement, n'a pas réussi. Et là commence ma chute, donc j'ai fait une première chute sur le dos à 15 mètres plus bas sur une pointe de rocher qui m'a perforé la colonne vertébrale. Et quand j'ai tapé la première fois dans le dos, le choc a été tellement violent, malgré le sac à dos avec une veste à l'intérieur. J'ai fait un autre roulé-boulé plus bas, à peu près encore 15 mètres à peu près aussi, ou un peu plus. Et une fois arrivé en bas de la falaise, je suis tombé en plein sur la tête. À partir de ce moment-là, je ne pouvais même plus bouger, même pas les yeux, ni les bras, ni rien du tout. Je me souviens des sensations de l'eau qui frappait contre les rochers, le vent qui me refroidissait dans tout le corps. J'y voyais encore autour de moi, donc je me suis dit que j'étais encore en vie. Dans quel état, je ne sais pas, parce que je saignais de partout, j'avais mal de partout. Mes amis ne pouvaient pas descendre parce que c'est inaccessible. Et je me suis dit à ce moment-là que j'étais foutu. Donc ils ont fallu qu'ils fassent tout le tour de l'île. En plus, à cet endroit-là, le téléphone ne capte pas. Donc il y en a un qui est parti en courant pour appeler les secours. Et mon autre ami a essayé de descendre tout le long pendant une demi-heure pour essayer de venir me voir. Malheureusement, en plein mois de janvier, il n'y a personne sur cette île. Et les pompiers qui sont de garde, donc de secours, sont sur Marseille. Donc le temps qu'ils arrivent en bateau avec le mauvais temps, en gros, il s'est passé 3 heures avant que le premier secours arrive. Ben alors pendant ces 3 heures, je me souviens de la douleur surtout que j'avais. J'avais très 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 froid parce que j'avais les vêtements déchirés et puis le fait de pas bouger et le vent, j'étais vraiment frigorifié. À cette époque, j'étais garagiste et je pensais au lendemain que je pourrais pas aller travailler. Je savais pas comment faire pour trouver une solution pour que quelqu'un puisse me remplacer au travail. C'est important de pas laisser les clients dans l'embarras et pour moi, le travail, c'est sacré, donc je pouvais pas concevoir de laisser fermer. Donc j'avais la tête ouverte de partout. Mon collègue qui essayait de me rescotcher avec du scotch qu'il avait de la pêche. Il m'a fait des jarres de garrots avec des t-shirts, tout ce qu'il a pu trouver, ses habits. J'étais conscient à 100%, j'entendais tout ce qu'il disait. Il criait, je l'ai tué. Il avait tellement insisté pour que j'y aille qu'il s'est senti fautif. Et pour moi, c'était très dur d'entendre ça sans pouvoir lui répondre. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Je me suis senti plusieurs fois partir dans le coma, ou je ne sais pas comment l'expliquer, très très faible, quoi. Donc partir, revenir. Mais à chaque fois, je luttais pour pas que les yeux se ferment, car je me disais que si, malheureusement, les yeux se fermaient, ben, je ne serais plus là. Donc, je faisais tout mon possible pour rester éveillé. J'avais 30 ans à ce moment-là, et je me suis dit que c'était trop tôt pour moi de partir, car j'avais pas fait encore tout ce que je voulais faire dans ma vie, et surtout avoir un enfant, avoir cette joie. Quand après les pompiers sont arrivés et qu'ils ont essayé de m'élitroyer, de me tirer, à ce moment-là, ils m'ont cassé la jambe droite et un bras. Donc les douleurs étaient encore plus terribles. Suite à ça, ils m'ont découpé au ciseau tous les habits pour voir les blessures que j'avais dans le dos par rapport à l'os. Et s'ils devaient intervenir sur quelque chose avant de m'élitroyer. Donc après, ils m'ont élitroyé dans l'hélicoptère. Je sentais par rapport à mon corps quand il se soulevait que ma jambe elle tenait plus, que je sentais plus le bas de mes jambes, tout ce qui est en bas du corps. Et après arrivé dans l'hélicoptère, j'entendais parler du groupe sanguin, ça veut dire que à mon avis ils voulaient me remettre du sang parce que j'en avais beaucoup perdu. Le cœur a lâché plusieurs fois. Ils m'ont fait 7 fois un électrochoc et la médecin qui était à côté de moi. Dit au pilote de l'hélicoptère, appelle les pompiers, je sais que la famille est au port, et dis-leur que malheureusement il est décédé. Et à ce moment-là, moi j'étais conscient, j'entendais tout ce qu'il disait, mais je ne pouvais pas bouger. Donc quand le pompier a appelé le centre de secours où ma famille était réunie entre-temps parce qu'on les avait appelés, ils leur ont signalé ma mort. Pour moi, j'étais encore vivant, donc j'essayais de leur montrer un signe que j'étais là, mais je n'arrivais pas à bouger, ni à respirer, ni à rien du tout. La chef de l'hélicoptère a dit à son assistant, « Bon, mais c'est fini, il est mort, on le met dans le sac, il faut le mener à la morgue. » Donc quand ils m'ont mené à la morgue, j'étais enfermé dans le sac jaune où ils enferment malheureusement les gens décédés. Donc ce sac est effrayant, est très serré, très épais. C'est un vulgaire sac de poubelle, quoi, en gros. Donc pour aller jusqu'à l'hôpital, ils m'ont mis sur un brancard. Ils m'ont descendu au sous-sol à la morgue. Et quand ils m'ont soulevé du brancard, qu'ils m'ont mis dans le casier, au moment de fermer le casier, je me suis dit que si je, à ce moment-là, je ne montrais pas quelque chose, ben, c'était fini pour moi. Donc j'ai eu cette ultime force. Je me suis, je ne sais pas comment dire, révolté. J'avais envie de montrer que j'étais encore là. J'ai essayé de me concentrer à mettre un coup. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai mis un coup de poing avec ma main droite. Et la personne qui fermait le tiroir m'a vu. Elle était affolée. Elle a hurlé. Et ils sont arrivés, les docteurs, avec l'électrochoc. Ils m'ont refait encore un coup d'électrochoc, une piqûre. Et à ce moment-là, mon cœur est reparti. Et je suis passé devant un cardiologue. Et j'entendais qu'il parlait à quelqu'un de ma famille et qu'il disait « je comprends pas, il a un cœur... » On a rarement vu ça, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Et il m'a dit « comme un très très grand sportif qui est capable de baisser le rythme cardiaque au minimum et de pouvoir respirer presque sans battement de cœur. » Donc j'ai été touché à ras de la moelle épinière. Donc ils m'ont opéré du dos d'abord. Ils m'ont mis une tige métallique avec des plaques pour refaire le dos. Par des broches, par l'avant, par l'arrière et sur les côtés, ils m'ont fait un cône pour que je puisse tenir debout au niveau du dos. Après, ils m'ont opéré au niveau des jambes, du bras, la vessie et la tête aussi. L'opération a été très longue et très lourde. Les docteurs avaient dit que j'étais tétraplégique, donc j'ai été en fauteuil roulant. Ça a été... très dur pour moi de vivre avec. Je me suis battu tous les jours avec la rééducation pour essayer que ça remarche. Et les médecins, ils me disaient que c'était très rare que ça revienne. Moi, j'y croyais. Je ne sentais pas mes jambes, mais j'avais espoir qu'ils se trompent. Tous les jours, ils nous faisaient faire quand même de la rééducation des jambes, des pieds pour que le sang circule. Tous les jours, ils nous mettaient entre deux barres et dans la piscine. Et malgré que ça ne bougeait pas, j'essayais de faire les mouvements même que ça ne bougeait pas. Et à force d'insister, un jour, ça a bougé un millimètre, un peu plus, jusqu'à ce que je voie une jambe bouger. Très peu, mais je suis presque arrivé à la commander. Donc, et depuis ce jour-là, j'ai pas lâché. Ça a été jour et nuit, je m'entraînais tout seul pour essayer de remarcher. En bougeant les jambes, les pieds, les doigts de pied. Tous les jours, dans ma tête, j'avais hâte d'arriver et tous les jours de faire un petit progrès ou de penser à la réussite, quoi. Après, ben, du fauteuil roulant, on est passé au déambulateur, encore pendant un an. Après, ça a été les béquilles. Et il a fallu au moins un an et demi pour que je marche seul en autonomie. Mais j'ai réussi. Et puis après, un peu tous les jours, ça a marché tout seul. Et c'est à partir de là que j'ai progressé de plus en plus. J'ai repris mon travail mécanicien auto, doucement, doucement, deux heures par-ci, deux heures par-là, sans travailler encore physiquement, mais en étant présent sur le lieu du travail, en parlant avec les gens, avec les employés, ça m'a beaucoup aidé. Et petit à petit, j'ai recommencé très doucement à retoucher un peu des outils, et à faire des petites réparations qui pour moi étaient magiques. Et c'est ce qui m'a permis de voir que je servais à quelque chose et que j'arrivais à faire quelque chose de mes mains et de mes jambes. Ça m'a beaucoup encouragé et c'est ce qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite dans la guérison. Donc au jour d'aujourd'hui, la vie est différente. Je peux vivre maintenant, bon, malgré les douleurs, mais faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, de plus se priver, de dire aux gens qu'on les aime, de faire tout ce qu'on a envie de faire, il faut le faire. Au jour le jour pour le bonheur de vivre. Il faut pas se prendre la tête. Juste vivre normalement et prendre les bons moments et les mauvais moments, les écarter. C'est très simple.
Est-ce que vous avez réalisé votre rêve d'avoir un enfant ?
Non, malheureusement, par rapport à cet accident, je ne peux plus en avoir. Mais c'est pas grave, j'ai de la famille qui ont des enfants et ce ne sont pas mes enfants, mais j'ai déjà le bonheur de pouvoir m'en occuper et de les avoir à mes côtés. Mais c'est déjà très très bien. Avant cet accident, j'étais quelqu'un vraiment hyperactif. Aujourd'hui, je suis quand même beaucoup moins et je prends beaucoup plus de temps pour les belles choses que je ne voyais pas avant. Style aller à la campagne, s'allonger, profiter du soleil, regarder les fleurs, les animaux, les choses qui sont belles, qu'on a autour de nous. Voilà, ça fait partie des choses de la vie que j'observais maintenant et que je ne voyais pas avant. Pas assez. Alors que ça compte beaucoup. La vie est très simple en fait, oui. Si on ne se la complique pas.
I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream, you know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs. The fire burns in the night sky. This life will keep us young, yeah, keep us young. Sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide.
C'était Ils ont frôlé la mort, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Chris, à Patrick, à Nino Lima et à Pedro Lima. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire. Et si vous voulez voir l'incroyable vidéo de Chris lors de son vol en deltaplane non attaché, eh bien vous rendez-vous à la page des Pieds sur Terre sur le site de France Culture. Nous l'avons mise en ligne.